Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième journée du festival, deuxième journée d'études. Après avoir vu quelques dynamiques de la mondialisation, quelques contestations et résistances à la fois au niveau local, national et aussi au niveau transnational, nous abordons aujourd'hui la question des acteurs de la mondialisation, ceux qui la pensent, ceux qui la font, ceux qui l'arment, à travers donc les acteurs transnationaux de la mondialisation. Pour commencer cette matinée sur cette question, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Frédéric Le Baron et Sylvain Laurence. Frédéric Le Baron est professeur de sociologie à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Il est directeur du CURAP, Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique. Ses recherches, comme vous le savez sans doute, portent sur les politiques économiques et les professionnels de l'économie, sur leurs discours, que ce soit des économistes, des banquiers centraux, les experts économiques, les dirigeants politiques, administratifs et économiques. Il est notamment l'auteur, alors pour citer un de ses premiers ouvrages, de La croyance économique, les économistes entre science et politique, qui est paru en 2000 aux éditions du Seuil. Et puis plus récemment, en novembre 2010, auteur donc de La crise de la croyance économique aux éditions du Croquant. Donc nous l'entendrons en premier. Ensuite, nous laisserons la parole à Sylvain Laurence, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Limoges, qui est un des animateurs du réseau de sociologie des élites de l'Association française de sociologie. Il est l'auteur notamment de une politisation feutrée, les hauts fonctionnaires et l'immigration en France 1962-1981. Et il mène actuellement une recherche sur les lobbyistes et business associations basées à Bruxelles et dont il vous fera part ce matin. Donc on fonctionne sur de la même manière qu'hier, c'est-à-dire 20 minutes d'intervention pour chacun des intervenants et ensuite un débat, une discussion avec la salle. Donc je laisse la parole à Frédéric Le Baron.
Merci beaucoup, Hélène. Pour commencer, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce festival Raison d'agir, qui connaît depuis plusieurs années un grand succès, ce qui, je crois, montre bien le besoin et la nécessité de développer des analyses à la fois critiques et rationnelles, et aussi de les diffuser, l'objectif étant, je crois, de pas à pas, de construire une alternative sociale et politique. Et j'y participe aussi, ça n'a pas été dit, mais à travers l'association Savoir Agir, qui a évidemment un lien étroit avec, disons, l'entreprise Raison d'Agir, en général. Alors, je vais vous parler des banquiers centraux, comme acteurs de l'après-crise, et plus précisément de la réalisation du programme néolibéral. Alors, il y a une actualité, c'est la récente décision du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne d'augmenter le taux directeur de la BCE à 1,25%, le taux REFI, jeudi, hein, c'est tout récent, pour lutter contre l'inflation. Donc il redevient l'objectif principal de la politique monétaire, bien sûr, mais plus largement des politiques économiques en Europe, en particulier pour lutter contre ce que Jean-Claude Trichet appelle j'ai évoqué à plusieurs reprises le jargon des banquiers centraux, et je commence donc avec cette expression, les effets de second tour. Vous avez peut-être rencontré cette expression. Alors, c'est quoi les effets de second tour ? Eh bien, c'est les effets inflationnistes liés aux pressions à la hausse des salaires, les revendications salariales, qui est la pire crainte aujourd'hui d'un certain nombre de banquiers centraux en Europe et dans le monde, dans le contexte social et économique dans lequel nous sommes. Cette décision illustre bien sûr l'actualité du thème que je vais évoquer, c'est-à-dire la place importante, et pour moi même assez centrale, sans jeu de mots, hein, c'est pas tout à fait un hasard si on parle de banque centrale, d'une fraction très particulière des élites mondialisées, à savoir justement les dirigeants des banques centrales, Alors j'entends par dirigeants des banques centrales, bien sûr, les gouverneurs, les sous-gouverneurs, mais aussi, plus largement, j'ai une définition un peu plus extensive, tous ceux qui participent par leur droit de vote aux prises de décision, notamment en matière de politique monétaire, et aussi lorsqu'ils participent aux instances de supervision, de régulation, les dirigeants de ces instances, très souvent, au moins liés, en tout cas, aux banques centrales. Leur place dans quoi ? Dans l'ordre économique en général, dans l'ordre social, et plus précisément dans l'ordre néolibéral, qui est un ordre social dans lequel un certain nombre d'acteurs tentent de réaliser un programme de flexibilisation de plusieurs marchés, le marché des biens, le marché financier et le marché du travail. On peut aussi dire qu'ils ont un rôle central dans le capitalisme financiarisé ou financier contemporain. Et c'est précisément pour insister sur cette fonction sociale très spécifique au sein des élites dirigeantes que j'ai proposé dans le dernier livre, La crise de la croyance économique, de parler de capitalisme étatico-financier, précisément pour insister sur l'importance structurale des banques centrales, qui sont des institutions publiques, souvent d'ailleurs de propriété publique à 100%, hein, et qui sont en même temps mises au service principalement des institutions financières dans le contexte de l'ordre néolibéral, qui aussi, c'est très important, pèse fortement sur les politiques publiques et notamment les politiques fiscales et budgétaires à travers diverses formes d'influence, y compris le lobbying. Équilibre budgétaire qui, par ailleurs, mais ça je ne vais pas le développer, est menacé dans l'ordre néolibéral structurellement par la pression des acteurs privés, des acteurs capitalistes privés, pour la réduction de leurs impôts, de la pression fiscale dont ils sont l'objet, ce qui est un des principaux facteurs, évidemment, des déficits et des dettes structurelles des États. Alors je vais très rapidement évoquer les différentes phases depuis le déclenchement de la crise, vous allez voir de quand je le date, des rapports entre les dirigeants des banques centrales, d'une part, et différents acteurs, principalement les acteurs dominants des marchés, dirigeants de banques, notamment de banques d'investissement, d'institutions financières, notamment de fonds spéculatifs, mais aussi les acteurs politiques, sans oublier, parce qu'à mon avis, ils font partie du champ du pouvoir et sont engagés d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont extrêmement dominés dans les luttes qui traversent ce champ, les dirigeants syndicaux, ils sont en fait très présents dans l'esprit des dominants et notamment des banquiers centraux, parce que ce sont eux les vecteurs justement des effets de second tour à travers les revendications salariales qu'ils portent en tant que représentants et porte-parole des salariés. Ce sont eux qui sont en fait accusés aujourd'hui, qui sont pointés du doigt par Jean-Claude Trichet en Europe, hein, comme étant à l'origine des pressions inflationnistes accrues et menaçantes. Alors d'abord quelques éléments très rapides avant de faire cette petite analyse de séquence historique sur qui sont socialement les banquiers centraux, même si j'ai pas mal écrit là-dessus et peut-être certains d'entre vous ont déjà lu des choses. Ils sont très souvent diplômés d'économie, c'est très majoritaire. Et parmi les diplômés d'économie, les docteurs en sciences économiques sont eux-mêmes majoritaires, avec une forte propension à obtenir son diplôme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, y compris lorsqu'on exerce ailleurs, hein, en Europe ou ailleurs dans le monde. On trouve parmi eux une très grande diversité de profils, de trajectoires. Il y a un certain nombre de politiques qui deviennent banquiers centrales, des gens qui ont occupé des fonctions dans des exécutifs ou qui ont même été parlementaires. Il y en a un nombre non négligeable, je dirais à la louche qu'on est autour de 10%, hein, pour l'ensemble des dirigeants entendus comme je l'ai fait. Mais ils peuvent aussi évidemment venir du monde financier, de la banque, bien entendu, des différents types d'institutions financières et aussi bien sûr de la haute fonction publique, économique ou non d'ailleurs, ou encore, bien sûr, c'est beaucoup plus marginal, d'entreprises industrielles et d'autres secteurs économiques. Très peu d'anciens syndicalistes, hein, quand même, parmi eux. C'est extrêmement, extrêmement minoritaire. Et c'est essentiellement lié, lorsque cela existe, à des contextes nationaux spécifiques, comme la social-démocratie nordique ou le Brésil. Enfin, voilà, des cas tout à fait particuliers. Alors, les séquences rapidement. La crise financière qui commence à atteindre un seuil critique. En fait, elle était déjà là, hein, la crise des subprimes, à l'été 2007. Aujourd'hui, c'est la doxa, c'est de dire que ça commence en août 2007, avec l'annonce de la fermeture de fonds liés à des banques européennes, a été perçue par les acteurs des banques centrales, en relisant leurs textes, en lisant de manière approfondie leurs textes, quand même comme un coup de tonnerre dans un ciel qui était apparemment sans nuages, en tout cas jusqu'en 2006. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs avec une espèce de nostalgie dans cet univers des banquiers centraux de la grande modération. La période antérieure, c'était la grande modération. Vous allez me dire, la modération, c'est pas très positif. Si, pour les banquiers centraux, une période de grande modération, ça veut dire une période de grande modération en matière de prix, ça veut dire une très faible inflation au niveau mondial, une croissance assez importante tirée par les pays émergents, une stabilité, bon, c'est l'idéal qui va s'effondrer en 2007, puis surtout 2008. Dès cette période, elles interviennent et elles ne cessent de répéter aujourd'hui qu'elles sont très fortement et très rapidement intervenues. Hein, c'est un leitmotiv du discours des banquiers centraux pour fournir des liquidités aux banques, pour maintenir la stabilité financière, éviter des enchaînements financiers désastreux. Bon, en fait, quand on se plonge dans l'histoire économique récente, les nuages étaient bien là et depuis longtemps. Et certains acteurs les avaient bien vus et avaient vu à quel point ces nuages étaient beaucoup plus noirs et beaucoup plus menaçants que ce que l'on croyait. Disons que dans l'optimisme ambiant auquel participaient les banquiers centraux, et là, j'ai toute une série de preuves hein, empiriques pour l'attester, ils annonçaient une petite pluie saisonnière, on va dire, cyclique, rafraîchissante, qui devait permettre à un certain nombre d'acteurs déviants d'être remis dans le droit chemin, de la bonne gestion du risque. Parce que le problème fondamental de la crise pour les banquiers centraux, c'est un mauvais management du risque dans un certain nombre d'institutions, et notamment d'institutions financières américaines. Le problème est localisé, il est très états-unien et très lié à certaines institutions, qu'on va voir avec le marché immobilier, bon, je n'entre pas dans le détail, et c'est essentiellement un problème de mauvaise gestion du risque. En partie sous-régulé, mais bon, les banquiers centraux ont tendance à ne pas se donner le premier rôle dans les responsabilités de la crise, et donc c'est avant tout des acteurs privés fautifs hein, qui sont à l'origine de la crise des subprimes. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avant la crise, ils parlaient d'événements à très faible probabilité. Alors c'est toujours amusant de voir que l'événement à très faible probabilité, bah, il s'est réalisé. Hein. Ils en parlent aussi ensuite. Événements extrêmes à très faible probabilité, voilà, c'est le genre de jargon que l'on peut lire. Alors à l'été 2008, il faut quand même se rappeler que la BCE augmente le taux directeur parce qu'elle a peur des pressions inflationnistes. C'est une situation qui correspond à ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire on a une montée des prix des matières premières très très importante, le prix du pétrole qui est encore plus importante qu'aujourd'hui, même si on est en train de retrouver le trend, enfin la dynamique disons de l'année 2008. Comme aujourd'hui, on attribue la dynamique à la pression de la croissance des pays émergents. Alors, il y a une dissociation qui s'opère à ce moment-là entre le contexte européen, où on continue de mener une politique anti-inflationniste, et le contexte américain, qui est déjà beaucoup plus dégradé sous l'effet de la crise des subprimes, qui s'est beaucoup étendue. L'été 2008, c'est déjà très, très avancé. Il y a des faillites, etc., pas qu'aux États-Unis, hein, bien sûr, mais tout un ensemble de phénomènes, y compris la chute des marchés. Alors, septembre 2008, là, c'est une intensification très aiguë de la crise, avec la faillite de Lehman Brothers, l'intensification très forte de la crise financière, un mouvement rapide, brutal, d'intervention coordonnée des banques centrales qui vont prêter de l'argent en abondance aux banques, qui vont finalement maintenir en vie le marché interbancaire. Elles vont permettre à un marché de survivre, le marché interbancaire qui ne fonctionnait plus, qui était totalement paralysé, et vont s'engager dans une politique de réduction rapide des taux d'intérêt, donc qui va tout à fait dans l'autre sens de ce que faisait la BCE encore à l'été 2008, c'est-à-dire une baisse progressive mais rapide des taux d'intérêt, qui va finalement rapprocher la politique des grandes banques centrales de celle de la banque centrale japonaise depuis les années 90. On parlait beaucoup pour le Japon de la ZIRP, Zero Interest Rate Policy, une politique de taux d'intérêt zéro, et on peut dire que le monde entier s'engage dans cette politique de taux d'intérêt zéro avec la phase aiguë. À ceci près quand même qu'en Europe, on s'arrête à 1%, c'est-à-dire le taux d'intérêt zéro, il s'arrête à 1%. C'est-à-dire assez loin de zéro quand même. Ce que personne ne dit. Hein, on oublie toujours ça, mais elle a quand même une politique qui, dans le laxisme généralisé, hein, dans l'expansionnisme généralisé des politiques monétaires de la crise, reste moins expansionniste que les autres. Dans cette phase, et c'est là-dessus que je voulais insister, les banquiers centraux sont solidaires des acteurs politiques qui annoncent qu'il faut massivement intervenir pour éviter l'effondrement du système financier. et qui vont devenir, qui vont recouvrer une certaine centralité dans l'action publique, notamment à travers le G20 et tout un ensemble de processus que je ne vais évidemment pas décrire, et notamment, bien sûr, avec les plans de relance, les politiques de stimulation fiscale, comme on dit, outre-Atlantique. Ça ne veut pas dire, à ce moment-là, que les banquiers centraux soutiennent les politiques de stimulation fiscale. Et là, il y a un point sur lequel je pense qu'il faut avoir une analyse assez fine. Ils ne peuvent pas dire grand-chose contre, parce qu'on est dans une situation de crise financière colossale, inimaginable, qui menace l'ensemble du système financier. Eux se sont clairement lancés dans une politique expansionniste, jouent leur rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent les politiques de relance et les politiques de déficit budgétaire très rapidement croissant qui vont être enclenchées dans divers pays. Ils ne peuvent pas s'y opposer, ce qui est un peu différent. Ils ne peuvent pas les freiner de manière très brutale et très ouverte, et ils ne le font pas. Mais enfin, si on fait une lecture symptomale, pour parler comme Althusser, des textes, on voit que ça ne les réjouit pas du tout et que pratiquement dès le début des politiques de relance, des plans de relance, en tout cas de leur généralisation et des grandes conférences du G20 qui vont en réaffirmer la nécessité, les banquiers centraux sont en retrait et préviennent dès le début qu'il va s'agir d'en faire des mesures exceptionnelles et surtout très rapidement réversibles. Il va falloir très vite en sortir parce que cela menace la stabilité financière. Bon, c'est particulièrement net dans les textes des banquiers centraux allemands en Europe, en particulier d'un membre du directoire de la BCE qui s'appelle Jürgen Stark, qui a vraiment très très tôt des discours apocalyptiques sur les conséquences que pourraient avoir les politiques de relance si elles étaient menées trop longtemps, trop rapidement, et si elles n'étaient pas suivies par des politiques. L'expression est quand même importante, je suis surpris qu'on ne communique pas, on ne discute pas assez de cette expression qui est revenue et qui fait florès dans le discours des banquiers centraux aujourd'hui, des politiques d'ajustement structurel. Nous sommes dans des politiques d'ajustement structurel. C'est le mot qui est utilisé. Je veux dire, c'est pas comme en ont vécu les pays africains, comme en ont vécu un certain nombre de pays. Voilà, donc je ne vais pas développer ce point. L'orthodoxie n'a pas du tout désarmé, en réalité, et d'une certaine manière, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, face à la nécessité de politiques de moins en moins conventionnelles, parce que, de fait, une politique de taux d'intérêt proche de zéro, même si c'est 1%, durable, c'est une politique non conventionnelle. Un certain nombre d'outils, les bilans des banques centrales vont exploser durant la période de la crise. C'est de la politique non conventionnelle à travers des mécanismes techniques sur lesquels je ne reviens pas. Ça n'empêche pas, d'une certaine manière, une radicalisation du discours orthodoxe, notamment d'ailleurs en Europe, dans le contexte européen, sous la pression des faucons. À l'intérieur des banques centrales, il y a les faucons et les colombes. Les faucons en Europe, c'est les Allemands, les Finlandais, un peu les Néerlandais et quelques autres, ils expliquent qu'on va trop loin, il faut faire attention, on va vraiment beaucoup trop loin. Et ça va s'intensifier en 2010. En 2010, la stratégie de sortie de crise annoncée par les banquiers centraux va triompher, c'est-à-dire que les États vont, lorsqu'ils avaient encore des velléités de mener des plans de relance, de s'endetter un peu plus parce que la situation conjoncturelle, le taux de chômage monte et la situation semble vraiment extrêmement dégradée, ils ne vont plus pouvoir le faire. Il y a eu quelques luttes internes dans certains gouvernements, y compris en France d'ailleurs, où l'Élysée était plutôt sur une position plus laxiste sur le plan budgétaire que Matignon et Bercy, mais c'est clair, c'est la BCE, les banquiers centraux qui vont triompher. C'est un triomphe qui va vite être amer avec la crise grecque, avec la crise de la zone euro, qui est la nouvelle phase, la phase ultime de la... Enfin, ultime, la dernière, en tout cas, en date, dans laquelle nous sommes en plein cette semaine avec le Portugal, l'entrée en crise donc, de la zone euro, qui, d'une certaine manière, va permettre le triomphe du discours orthodoxe sur beaucoup de sujets, et en même temps, obliger les banquiers centraux à aller encore plus loin dans les politiques non conventionnelles. C'est-à-dire que le mouvement se prolonge, et ce mouvement est assez ambivalent, ce qui explique d'ailleurs que c'est une phase qui devient difficile pour les banquiers centraux allemands. Certains d'entre eux ne la supportent plus. Axel Weber fait des déclarations, fait une sorte de coming out, alors que théoriquement le conseil des gouverneurs de la BCE n'a pas du tout le droit à l'expression individuelle sous la pression des Allemands, hein, c'est quand même assez étonnant, et c'est eux qui en 2010 font des sorties. Enfin, c'est en particulier Axel Weber qui va finir par quitter la Bundesbank, hein, c'était le gouverneur de la Bundesbank, qui est tellement orthodoxe, on pourrait dire, qui n'est plus en phase avec la politique de la BCE, jugé par lui trop non conventionnel. Voilà ce que ça veut dire. Le soutien de la BCE au fonds de stabilité, par exemple, on est vraiment dans la grande actualité, là, hein, c'est, qui devient un mécanisme européen de stabilité à partir de 2013, c'est récent, ça a été décidé récemment, c'est encore en cours de discussion, c'est ce soutien, on pourrait dire, c'est une façon d'externaliser les problèmes. C'est-à-dire, c'est plus la BCE qui va agir, c'est le fonds. C'est une des raisons qui peut permettre d'expliquer cette posture. Alors, j'en viens au cœur de la présentation. Je suis désolé, c'était vraiment très rapide ce que j'ai fait là, mais il fallait que je restitue un petit peu les étapes, parce que je crois qu'il faut entrer dans l'analyse fine des conjonctures socio-économiques pour y comprendre un peu quelque chose. Ce qui est frappant, c'est le maintien de la continuité doctrinale des banquiers centraux, qu'ils soient européens ou dans d'autres contextes internationaux, en dépit même d'une série, que je ne vais pas détailler, d'inflexions, de petits coups de canif, plus ou moins prononcés, dans la doctrine traditionnelle ou officielle des banquiers centraux. Le fait de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort de manière durable, le fait de je l'ai déjà dit, d'avoir une politique de taux proche de zéro très durable, ça c'est vraiment des accros, hein, on est vraiment dans le non conventionnel, comme on dit dans cet environnement, on n'est pas loin d'une politique assez hétérodoxe. Je mets des guillemets sur les qualificatifs. Hétérodoxe n'est pas du tout utilisé, évidemment, dans le jargon des banquiers centraux. On dit non conventionnel quand on fait des choses un peu différentes de ce que l'on fait d'habitude. Alors, ce qui est frappant, c'est un phénomène aussi curieux, une sorte de contradiction étrange, c'est au même moment où on explique que l'une des raisons de la crise, ça a été les excès expansionnistes de la Fed, de Greenspan, au sortir de la bulle Internet, du crack de la bulle Internet. Alors évidemment, ce n'est pas les banquiers centraux qui tiennent exactement ce discours, mais c'est un discours qui devient très fort. Au moment même où on explique que c'est ça qui a été le vecteur d'une euphorie financière, d'une spéculation qui a fini par exploser, on fait la même chose, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on maintient durablement une politique expansionniste, ce qui, évidemment, n'est pas sans poser des problèmes, hein, malgré tout, aux banquiers centraux. On est en train d'injecter massivement des liquidités, il va falloir les retirer. Sinon, on s'est à nouveau engagé dans quelque chose qui va exploser un jour ou l'autre. Hein. Ils sont vraiment dans cette dynamique-là. Bon, aux États-Unis, la politique est explicitement hétérodoxe avec ce qu'on appelle le quantitative easing. Je ne vais pas développer. On appelle ça, chez les journalistes économiques, parle de la planche à billets. Bon, ça m'amuse toujours parce que cette idée de planche à billets qui fait comme si c'était vraiment très exceptionnel et très dangereux. Il y a tout cet arrière-plan de menace hyper-inflationniste qu'il y a derrière la notion de planche à billets, la métaphore de la planche à billets. On ne parle jamais de planche à billets quand la Banque centrale mène une politique très expansionniste qui sert de manière beaucoup plus conventionnelle à la spéculation financière. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que la moitié des profits des banques sont liés à la spéculation financière. Devant la crise grecque, la BCE elle-même est amenée à adopter des formes de dispositifs non conventionnels, même si ici en Europe, il ne faut pas le dire. Donc surtout pas, on ne fait pas de quantitative easing, enfin, on est vraiment dans surtout le déni total, mais on rachète sur le marché secondaire quand même des titres de la dette publique grecque. Donc on s'en rapproche en fait, hein, et le bilan de la BCE a aussi explosé, et très tôt en fait, hein, donc on n'est pas si éloigné. Malgré toutes ces inflexions, il est très frappant donc de constater une très grande stabilité discursive que j'ai mesurée empiriquement en utilisant des techniques lexicométriques et en lisant les textes, ce qui n'est pas toujours facile, c'est très redondant, je peux vous dire, la littérature des banquiers centraux. Bon, ça tombe bien, parce que là, j'avais presque fini, hein, vous avez bien compris. Sur le plan discursif, comment ça s'exprime, cette permanence de la doctrine, on insiste sur le caractère exceptionnel de la période de crise, qui a justifié le recours à une rhétorique très interventionniste, mais très localisée, très contextualisée. C'est un moment particulier qui exige, c'est l'exceptionnalité des circonstances qui exige de faire quelque chose. On va fermer la parenthèse, la métaphore de la parenthèse est omniprésente, évidemment. C'est des précautions multiples, des clauses de style qui traduisent la gêne, l'irritation, le freinage aussi politique, notamment face au plan de relance, aux politiques de stimulation fiscale. C'est le cadrage rapide des leçons à tirer de la crise, j'ai déjà évoqué. La crise, c'est avant tout, pour ce qui est de la crise des subprimes, une crise de mauvais management du risque dans des entreprises privées, qui n'a pas été suffisamment régulée aux États-Unis. Donc, du côté de la BCE, il y a quand même une critique implicite, elle n'est pas très explicite, des autorités de régulation américaines. Mais c'est aussi, pour la crise de la zone euro. C'est pas du tout une crise de l'euro. C'est pas du tout une crise de l'euro dans laquelle nous sommes. Pas du tout. Vous n'avez rien compris si vous pensez que c'est une crise de l'euro. C'est une crise du laxisme budgétaire de certains États qui n'ont pas suivi le pacte de stabilité et de croissance comme ils auraient dû le faire et qui, au contraire, l'ont mis à la poubelle en 2006, ce qu'ils n'auraient pas dû faire parce que, voilà, patatras, ça leur retombe dessus aujourd'hui. Alors, il y a aussi une enquête dont j'aurais voulu parler, mais j'ai pas le temps, qui a été menée récemment par le Conseil d'analyse économique, un certain nombre d'auteurs, Bedbez, Plion, etc., qui ont fait une enquête. Alors, c'est assez amusant, c'est une enquête par questionnaire. Les économistes font pas souvent ça, mais là, ils l'ont fait auprès d'économistes et de banquiers centraux sur le central banking. Donc, c'est publié, si ça vous intéresse, au Conseil d'analyse économique en janvier 2011. Vous pouvez lire les résultats de cette enquête. Méthodologiquement, c'est assez intéressant, puisqu'ils avaient, ils ont envoyé le questionnaire à 200 individus, c'est pas énorme. Ils ont eu 46 réponses, mais ils font quand même un rapport là-dessus. Donc, ça doit détendre, je pense, les étudiants sociaux. Voilà. Vous pouvez y aller. Hein, vous avez comme modèle le Conseil d'analyse économique. Je pense que vous pouvez faire mieux en termes de taux de retour. Et ils ont 15 banquiers centraux. Donc, je ne vais pas faire de statistiques. Mais ils donnent quand même des pourcentages sans aucune précaution. Hein, et donc, les banquiers centraux sont très... Alors, je cite juste quelques éléments de leur évolution sur les questions de central banking depuis la crise. Il reste optimiste, en particulier, sur le fait de penser que nous sommes en train d'entrer dans une ère de plus forte instabilité financière. Non, il ne le pense pas du tout. Les économistes, oui, mais les banquiers centraux, pas du tout. Au contraire, parce que les banquiers centraux vont être à l'œuvre et qu'on va renforcer leurs fonctions et qu'on est en train de mettre en place un mécanisme de stabilité. Enfin, voilà, il n'y a aucune raison. Ils sont très peu enclins à envisager une révision de leur stratégie de ciblage d'inflation, ce qui voudrait dire intégrer les prix des actifs. Actifs immobiliers, actifs financiers, qui est une des grandes critiques que l'on fait aux banques centrales. C'est bien beau de suivre le taux d'inflation, mais le taux d'inflation, il mesure que certains prix. Ce n'est pas du tout le niveau général des prix, parce qu'il ne prend pas en compte les prix des actifs immobiliers ou mobiliers. Donc, il est tout à fait insuffisant. Critique très forte, hein, que beaucoup d'économistes français partagent. Ça ne leur pose pas de problème. Les banquiers centraux se révèlent également fortement hostiles à un relèvement de la cible d'inflation pour faciliter la sortie de crise. Donc, voilà. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'idée qu'une inflation aussi basse, dans un contexte de taux de chômage qui est quand même très élevé en Europe en particulier, mais aux États-Unis aussi, c'est peut-être absurde. Alors il se trouve qu'il y a un économiste du FMI qui s'appelle Olivier Blanchard, hein, qui travaille donc sous les ordres de Dominique Strauss-Kahn, qui est un keynésien, qui avait quand même soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, hein, je précise, pour situer un peu le personnage, qui a dit, bon, il faudrait peut-être penser à fixer la norme à 4% d'inflation, finalement. On ne s'en tirerait peut-être pas plus mal en termes de taux de chômage et en termes de croissance. Ça a suscité vraiment des réactions d'hostilité extrêmement violente dans la presse financière et dans l'univers du central banking. C'est-à-dire que même une proposition qui ne paraît pas d'une radicalité extrême par quelqu'un qui a soutenu Nicolas Sarkozy et qui est l'économiste en chef du FMI, quand même, ça a été perçu comme vraiment une rupture... radical. Voilà, donc juste pour conclure, j'avais prévu de conclure plus longuement comme je fais toujours, mais je ne le ferai que rapidement. C'était au fond pour discuter de cette notion de stabilité qui est le thème, c'est un mot fétiche hein, du banquier central qui s'est attesté là, pour le coup, la lexicométrie le montre, c'est un terme qui revient tout le temps. Alors il y a la stabilité, la constance dans la confiance dans la constance, la constance dans la... confiance dans la stabilité, enfin bon, voilà, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, vous allez produire du discours de banquier central. Pour moi, ils sont des agents de l'instabilité, et en particulier de l'instabilité sociale, et aujourd'hui, ils sont même des agents de la dislocation de la construction européenne, à travers divers mécanismes que je n'ai pas le temps de développer, mais ils sont en train de légitimer ce qui est en fait une thérapie de choc, littéralement. Là encore, l'expression n'est pas beaucoup utilisée. On est dans des plans d'ajustement structurel qui ressemblent beaucoup à des thérapies de choc, y compris avec la comparaison historique avec ce qui s'est passé dans la transition vers l'économie de marché brutale dans les pays en Russie, etc. D'une certaine manière, ils n'ont plus d'opposition du côté des acteurs politiques, puisqu'ils ont réussi à l'emporter, alors que les acteurs politiques avaient, dans certains cas, essayé de réémerger dans le contexte de la crise financière et, à travers le G20, de reconquérir une forme de capacité d'impulsion et de décision en matière de politique économique. On est dans une phase, en Europe en tout cas, de constitutionnalisation de la politique budgétaire, c'est tout à fait à l'opposé, où on va vraiment constitutionnaliser la limite mise au déficit. Le seul obstacle qui peut leur être opposé, je crois, aujourd'hui, c'est le mouvement social et la combativité des acteurs sociaux. Merci.
Bien, mais je merci beaucoup. Je laisse la parole à Sylvain Laurence.
Peut-être que je vais inverser, ce sera plus simple. Ou alors je prends la souris. Tu veux ça? Alors moi, j'ai préparé un PowerPoint pour que vous puissiez fixer l'écran puis passer dans un demi-sommeil. Voilà. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Donc d'abord, oui, mon intervention portera sur le lobbying à Bruxelles. Alors je juste dire quelques mots en introduction sur la notion de lobbying et sur la façon dont ce thème-là est généralement traité dans les médias. Donc lobbying, ça vient du mot anglais lobby, couloir, corridor. En fait, c'est un mot qui au départ a émergé parce qu'il désignait les partis dans le Parlement anglais où les parlementaires pouvaient croiser d'emblée des représentants d'intérêts économiques et représentants d'intérêts privés. Et donc c'est un mot qui sert aujourd'hui à désigner toute forme de tentative d'influence des acteurs privés ou associatifs en direction du pouvoir politique en direction des décideurs politiques ou administratifs. C'est un mot qui, d'une certaine manière, unifie des pratiques parfois un peu différentes. Alors, je vais peut-être d'emblée dire que je ne parlerai ici que du lobbying, on va dire des entreprises, des représentants d'intérêts économiques, car connecté à la notion de lobbying, il y a aussi l'idée souvent de société civile, notamment à Bruxelles, qui est assez forte. Et donc, on parle fréquemment de lobbying à Bruxelles pour désigner autant des pratiques d'ONG, Greenpeace, des ONG plus ou moins professionnalisées d'ailleurs, comme Greenpeace, Oxfam, etc., et des tentatives d'influence du secteur privé à travers différents canaux que je vais essayer d'exposer aujourd'hui, mais qui ne sont pas toujours d'une même efficacité et qui sont, on met sous un même mot des pratiques qui n'ont pas forcément la même efficacité. Et cette idée-là renvoie à l'idée qu'il y a une société civile pacifiée, une agora, où les intérêts pourraient s'exprimer à part égale et où, en fin de compte, chaque cause pourrait être entendue et portée dans une forme d'arène sociale pacifiée. Donc ici, je vais parler uniquement des lobbies, on va dire privés. Alors là, c'est un peu délicat de dire ça comme ça parce que de plus en plus de lobbying privé, justement, passe par des formes, on le verra, associatives. Voire passe par des formes d'imitation des ONG. C'est ce qu'on appelle en anglais l'astroturf, l'aéroglisseur, c'est-à-dire, c'est les travaux notamment de David Miller qui ont montré ça, c'est-à-dire de plus en plus d'intérêts privés sont défendus à Bruxelles ou à Washington sous la forme d'ONG qui se mobilisent. Donc, par exemple, lors du sommet sur le climat en Afrique du Sud, on a vu subitement des ONG lutter contre l'écologie. Alors, c'était des ONG de paysans et travailleurs sud-africains qui mobilisaient contre le contre-sommet sur le climat en avançant des arguments suivant lesquels, en fin de compte, le climat, l'écologie, tout ça, c'était des préoccupations de petits blancs bourgeois et qu'il fallait bien sûr prendre en compte ce qui était vraiment important, à savoir la capacité des gens à se nourrir. Et d'ailleurs, en fait, cette ONG qui n'existait pas auparavant, on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était les producteurs d'OGM et d'entreprises du type Monsanto. Donc en fait, là, il y a un raccourci que je vais prendre en disant que je travaille sur les intérêts privés, mais qui déjà d'emblée masque le fait que dans les ONG qu'on retrouve sous Bruxelles, il y a beaucoup d'éléments qui en fait renvoient à une tentative des entreprises privées de mimer les mouvements. Récemment, il y a eu comme ça aussi devant le Parlement européen une manifestation pour la défense du climat. Et en fin de compte, l'ONG avait trois propositions très fortes en militant et en manifestant devant le Parlement européen. C'était promouvoir le charbon. Donc on se rend rapidement compte comme ça qu'il y a des ONG qui subitement s'enflamment pour des causes avec des revendications très techniques. Donc tout ça pour dire que, premier point, la notion de lobbying telle que je vais l'utiliser aujourd'hui, elle renvoie surtout aux intérêts privés, volontairement, pour ne pas mettre dans la même balance des intérêts qui ne pèsent pas de la même façon. Deuxième point, c'est que je vais parler du lobbying à Bruxelles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en France. Il y a eu un débat très récemment parce qu'il y a un site militant qui a mis en ligne tous les intérêts qui étaient représentés à l'Assemblée nationale à travers les auditions pour différents rapports. Vous verrez, vous pouvez aller aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Là, c'est quand même un vrai déplacement de sens par rapport à ce qui se faisait ces 10 dernières, ou même dans la tradition républicaine depuis le début. Vous pouvez maintenant trouver sur le site de l'Assemblée nationale une partie du site, vous pouvez cliquer, vous avez toutes les personnes qui sont accréditées au sein de l'Assemblée nationale et qui représentent des intérêts privés auprès des parlementaires. Alors c'est vraiment la toute petite partie immergée de l'iceberg. Donc il y a 200 noms de personnes, on pouvait aller voir, donc Veolia est enregistré, tout un tas de groupes comme ça, français, Renault, etc. Et donc à chaque fois vous avez le nom de la personne qui la représente, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que souvent ce sont des anciens députés qui trouvent là une forme de reconversion. Et donc là on a vraiment que les gens qui ont permis de passer le contrôle de sécurité, parce qu'en fait surtout avoir cette accréditation, ça permet de passer par la porte de derrière sans avoir à chaque fois enlevé ses affaires, mettre tout sur le... Donc là, c'est vraiment que ceux qui ont un contact régulier avec les élus français. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on en parle beaucoup à Bruxelles, il n'y a rien qui se passerait dans les arènes nationales. Et il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale pour voir à quel point ça existe ici aussi. Enfin, un dernier point, on parle souvent dans les médias du lobbying. Alors, vous avez peut-être entendu parler, il y a une quinzaine de jours dans le Sun, un tabloïd anglais, un scandale qui a éclaté parce que des journalistes se sont fait passer pour des lobbyistes et ont réussi à corrompre des parlementaires européens, à leur proposer de l'argent contre le fait qu'ils déposent des amendements sur des projets de loi au Parlement européen. Et donc, la façon dont on parle du lobbying dans les médias, c'est souvent l'idée qu'il y aurait des relations occultes ou une forme d'achat des voix des parlementaires européens. Alors, deux choses. La première chose, c'est que, oui, il y a du lobbying auprès des parlementaires, mais en fin de compte, c'est souvent le bout de course du lobbying. C'est-à-dire, le bon lobbyiste, il fait du lobby, non pas auprès des parlementaires européens, mais auprès essentiellement de la Commission européenne, parce que dans le système politique européen, c'est auprès de la Commission que ça marche. Et qu'après le texte est mis en circulation au Parlement, mais c'est déjà quasiment, on va dire entre guillemets, trop tard. Enfin, le texte est déjà très avancé. Et d'autre part, on parle souvent du lobbying sous l'angle du scandale, de la corruption, ce qui masque le fait qu'en fin de compte, c'est une pratique très routinisée et qui est complètement inscrite dans les modèles de fonctionnement même des institutions européennes. Et donc là, il y a un décalage peut-être aussi dû à la fois au traitement médiatique, qui parle souvent des cas de corruption, mais aussi à peut-être une façon qu'on a en France de penser les rapports entre politique et société civile dans le contexte bruxellois. Et c'est d'ailleurs une chose qui m'a un peu étonné quand je suis arrivé sur ce nouveau terrain d'enquête. En fin de compte, c'est tout à fait légitimé de recevoir des acteurs de la société civile, de prendre connaissance de leur expertise, parce que le système des institutions européennes, c'est un système où, en fin de compte, ce qui crée la légitimité politique, ce n'est pas uniquement l'élection, c'est aussi l'expertise. Et l'expertise produit la loi tout autant que le mandat électif. Et donc là, il y a quelque chose qui est aussi en décalage, c'est qu'en fin de compte, on parle souvent de ce qui se passe du côté des parlementaires et sous un angle de corruption, mais ça occulte le côté très quotidien, très routinisé, très ordinaire de ces pratiques de lobbying. La Commission européenne ne sort pas un texte sans avoir fait d'abord une consultation qui a duré presque 12 mois, où on a reçu successivement tous les représentants et les groupes d'intérêt locaux et qui sont représentés à Bruxelles. Et il y a vraiment une institutionnalisation de ça. C'est-à-dire, vous pouvez, y compris, il y a tout un tas de procédures juridiques, vous pouvez être déclaré partie intéressée sur un sujet administratif donné. Et à partir du moment où vous êtes partie intéressée, vous avez droit, plus que d'autres, à exprimer votre avis, à ce que votre avis soit pris en compte, etc. Donc, il suffit pour ça d'aller voir sur le site de la Commission européenne le nombre de consultations en cours en permanence et le nombre de débats structurés par et à travers ce qu'on appelle les lobbyistes. Pour donc me focaliser sur ce qui se passe à Bruxelles, je voulais dire tout d'abord qu'en fin de compte, ce qui fait que Bruxelles est une place importante pour le lobbying et ce qui fait que Bruxelles est devenue, après Washington, ce qu'on dit souvent, la deuxième place mondiale pour le lobbying, c'est le fait que Bruxelles, en quelques années, a vu émerger un quartier européen, un système politique qui a pour sous-bassement matériel, en fin de compte, un cadre spatial assez limité. En fait, à Bruxelles, vous trouvez une concentration totalement inédite à la fois de fonctionnaires. Donc à Bruxelles, vous avez, alors ça c'est des chiffres assez anciens parce que ça n'a pas été réactualisé, mais ça c'était une enquête qui avait été faite qui essayait de compter combien il y avait d'eurocrates, hein, pour le dire rapidement, à Bruxelles. Donc vous avez plus de 15 000 personnes qui travaillent pour la Commission européenne, vous en avez 2 600 qui travaillent pour le Conseil des ministres, vous avez 1 600 pour le Parlement européen. Alors souvent, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en fait, il y a deux Parlements européens, hein, il y en a un à Bruxelles et un à Strasbourg. Celui de Strasbourg, il est vraiment là pour les sessions, on va dire, extraordinaires. Mais en fait, le quotidien du travail pour le Parlement européen s'effectue à Bruxelles aussi. Donc, ce qui fait que Bruxelles, vous avez à la fois le Parlement, la Commission européenne et le Conseil des ministres. Vous avez ce qu'on appelle le triangle institutionnel et il est pleinement actif toute l'année là. Et effectivement, quand on doit aller voter certains textes, on va à Strasbourg, hein, donc, ce qui cause d'ailleurs une série de luttes de la part des députés européens qui en ont marre de faire la navette comme ça entre deux sièges. Et puis, il y a le coût d'avoir deux. Alors, leur argument est de dire qu'il y a deux arènes à entretenir, les locaux, etc. Mais en fin de compte, tout est concentré, enfin, l'essentiel est concentré à Bruxelles. Vous avez la Commission européenne qui est située en face du bâtiment du Conseil des ministres, qui est lui-même à, on va dire, 800 mètres du Parlement européen. Donc c'est ce qui s'appelle donc le triangle institutionnel, et ça tient dans à peu près 3 km carrés. Et autour de ça, bien sûr, en 40 ans, c'est structuré par une imbrication d'acteurs successifs, un système politique et un entre-soi relativement inédit. Donc là, l'image, elle est extraite de la thèse d'Olivier Benet, qui portait en 2003 sur les journalistes accrédités auprès de la Commission européenne. Et Olivier Benet s'était amusé comme ça à inscrire dans l'espace urbain où étaient les journalistes des principaux journaux. Donc là, vous avez The Economist, là, vous avez Reuters, etc. En fait, tout ça, maintenant, ça a encore été aggravé parce qu'en fait, ils ont créé il y a plusieurs locaux en fait qui font que maintenant on les a concentrés dans des endroits très précis, donc les journalistes, et donc vous avez le Residence Palace, bon, qui est en travaux, qui est un peu en train d'évoluer, qui est une espèce d'ancien palais dans lequel on a mis la plupart des journalistes, et ça c'est vraiment juste, ça jouxte les bâtiments que je vous ai montrés auparavant. Il y a aussi au même endroit une explosion du nombre de firmes de conseil, et donc en fait le lobbying aussi s'appuie sur l'émergence d'un secteur de la représentation d'intérêts à travers le secteur privé. Donc il y a énormément de firmes de consultants, donc public relations, des consultants plutôt centrés sur la partie politique. Il y a aussi et surtout des firmes d'avocats. Là, aux firmes, ça c'est un tableau qui est extrait d'une enquête de l'AUCEN en 99, qui montrait d'ailleurs comme ça comment au cours des années 80, il y a eu une explosion du nombre d'intermédiaires et d'acteurs dans la scène bruxelloise. Il y a aujourd'hui, ça c'est un travail de Mathieu Winkengen, il n'y a quasiment aucun cabinet d'avocats de taille mondiale qui n'a pas au moins un bureau ou une antenne à Bruxelles. C'est pas prêt de s'arranger. Là, c'est une capture d'écran du projet urbain pour les 10 ans à venir de ce quartier-là. On prévoit qu'il y a 560 000 m² supplémentaires de bureaux qui doivent être construits sur 10 ans dans cette espèce de triangle inédit, ce qui va faire un décrochage urbain incroyable parce qu'on ne peut rentrer que ces bureaux-là que dans des tours, bien sûr. Et donc le quartier est en permanence en travaux. Mais c'est vraiment, il y a une émergence d'un quartier. Il y a un soubassement matériel à la pratique du lobbying qui est très forte, qui fait que, en fin de compte, on va avoir aussi une circulation des acteurs très importante d'une position à l'autre. C'est-à-dire le fait qu'on va retrouver, par exemple, quelqu'un qui est du côté administratif et puis qui va quitter la commission pour montrer sa boîte de consulting et puis qu'on va retrouver à faire du lobbying pour une autre forme d'intérêt, s'explique aussi par le fait qu'il y a une concentration très forte au même endroit, une imbrication très forte au même endroit de tous ces acteurs-là. Ça s'explique aussi parce que du coup il y a toute une sociabilité, donc ça c'est une photo que j'ai prise devant le Parlement européen, il y a tout un tas de sociabilité plus ou moins institutionnalisée au sein de ce quartier là qui fait que les gens se retrouvent en dehors du bureau dans tout un tas de lieux balisés qui sont soit organisés par des entreprises privées, soit dans des clubs de loisirs, mais j'ai pas le temps de développer ce point là. Je veux faire donc du coup un portrait de famille rapide de ce qu'est la représentation patronale ou économique à Bruxelles. Alors le mot patronal, il pose un problème parce que en France, patronal comprend sous un même mot ce qu'est la représentation des, des patrons vis-à-vis du monde syndical, hein, toute la dimension, on va dire, organisation paritaire, etc., et la représentation proprement des intérêts économiques, c'est-à-dire comment faire évoluer la loi pour qu'elle aille dans un meilleur sens pour faire plus de chiffre d'affaires. Et donc ces deux dimensions du lobbying patron économique, elles sont confondues en France dans le terme patronal, mais elles ne le sont pas toujours au niveau allemand. Les Allemands ont deux structures, BDI, BDA, une pour faire du syndicalisme patronal et l'autre pour défendre les intérêts strictement économiques du point de vue législatif. Je vais utiliser patronal pour aller vite, mais en fin de compte, le mot qui est utilisé par les acteurs là-bas, c'est business. Et la plupart de ces structures-là sont des business associations, c'est-à-dire elles sont là pour faire progresser les intérêts privés. Donc vous allez retrouver sur Bruxelles une série de fédérations patronales nationales, françaises, et c'est la même chose pour à peu près tous les pays. Donc vous avez bien sûr le MEDEF, qui est un bureau là-bas, avec 6 personnes à temps plein. Vous avez une association qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle l'AFEP, Association française des entreprises privées, qui réunit que les entreprises du CAC 40. Et ça, c'est un lobby tout aussi puissant sur Bruxelles, parce qu'il ne fait absolument pas la partie syndicale comme le MEDEF. Un de mes enquêtés m'expliquait que le MEDEF, c'était l'extrême gauche de la représentation patronale, parce qu'ils sont toujours en train de penser à comment les syndicats français vont percevoir ce qui va être dit, etc. Alors que l'AFEP ne fait que est un lobby dans des entreprises françaises qui ne pensent qu'à la dimension véritablement business. Donc elle regroupe les entreprises du CAC 40. Et vous ne trouverez pas de site internet de l'AFEP, vous ne trouverez pas de brochure de l'AFEP. Là, c'est pas du surtout la version publique du lobbying. La CGPME, hein, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises aussi, est représentée. Et puis vous allez avoir les fédérations patronales nationales qui sont généralement là aussi basées à Bruxelles. Elles sont représentées en direct et elles sont aussi représentées à travers ce qu'on appelle Business Europe. Business Europe, c'est le MEDEF des MEDEF, donc c'est la Confédération des Patronats Nationaux. Business Europe, c'est donc beaucoup croient que depuis que Parizeau est là, il n'y a plus Antoine de Seillière. En fait, Antoine de Seillière est passé juste au niveau européen, donc il dirige Business Europe, qui est situé effectivement à 800 mètres de la Commission européenne et qui emploie 80 personnes à temps plein, hein, ce qui est beaucoup plus que n'importe quelle ONG sur Bruxelles, et qui en permanence prend des positions, alors ce qu'on appelle des position papers dans le langage indigène, c'est-à-dire des papiers argumentés, des papiers de position qui sont envoyés à la Commission dès que la Commission ouvre une consultation publique. Vous avez aussi la table ronde des industriels, l'European Roundtable, c'est comme Business Europe, mais pour les PDG. C'est-à-dire que ça réunit des associations nationales, MEDEF, etc. L'European Roundtable, c'est la même chose, mais pour les PDG. Donc vous avez les PDG des plus grandes entreprises qui sont autour d'une même table et qui proposent. Alors là, c'est du lobbying à 10 ou 15 ans, c'est les grandes orientations de ce que pourrait être la politique de recherche, la politique économique, etc. Vous avez autre possibilité pour être représenté par les entreprises, des chambres de commerce. Alors, vous avez la Chambre de commerce de Paris, la Fédération des chambres de commerce. Vous avez aussi toute une multitude de chambres de commerce qui sont en fait des associations qui se déclarent elles-mêmes comme étant chambres de commerce, comme AmCham EU, qui est la plus connue, c'est la chambre de commerce américaine en Europe. Donc là, c'est une chambre de commerce qui représente les plus grandes entreprises américaines, donc Microsoft, McDonald's, American Airlines, tout ça, toutes ces entreprises américaines sont représentées à Bruxelles à travers cette chambre de commerce-là. Et on a des rapports très réguliers, bien sûr, avec les décideurs économiques. Vous avez aussi une représentation à travers les représentations régionales. Alors, elles sont inégalement puissantes selon les pays. Les représentations régionales allemandes sont bien plus puissantes en général que celles françaises, puisque les Länder ont plus de poids. Donc là, c'est pour vous donner une idée, c'est le local modeste du Land de Bavière qui est en face du Parlement européen. Vous avez aussi une représentation des intérêts économiques à Bruxelles en direct pour les compagnies, les plus grosses compagnies. Microsoft a un siège avec un bureau permanent à Bruxelles, et donc les plus grosses compagnies, Philip Morris, Total, etc., ont des bureaux directement. Ils ne passent pas nécessairement par leur représentation patronale. Vous pouvez être représenté par un cabinet de consultant, hein, donc en passant par le maillage que j'évoquais tout à l'heure de tous ces cabinets de conseil, via la région ou la ville, ou à travers une forme de lobby plus soft, à travers des expositions, des actions philanthropiques, l'organisation de débats par des think tanks, etc. La plupart du temps, bien sûr, une stratégie d'influence, elle multiplie tous ces niveaux-là. C'est-à-dire le but pour Microsoft, c'est de désingulariser sa position personnelle, individuelle, et faire reprendre ses arguments par toute cette myriade d'acteurs pour que le même argument arrive par différents biais jusqu'à la Commission. C'est-à-dire si vous luttez par exemple contre les logiciels libres et que vous voulez qu'on puisse garder le brevet sur certains logiciels, il faut que le plus important pour vous, c'est que votre position soit reprise par toute cette série d'acteurs, que la même position arrive comme étant la position des entreprises américaines, comme étant la position des régions où Microsoft a implanté et salarie des gens, qu'elle arrive sous l'angle donc économique, emploi, etc. Donc pour multiplier les argumentaires et aussi les sources produisant le même argument. Mais en fin de compte, un des acteurs les plus centraux dans le lobbying, et c'est celui-là sur lequel je vais poursuivre et m'attarder le plus, ce sont en fait les associations qu'on appelle les business associations, qui sont en fait des statuts, c'est des associations sans but lucratif, donc ça pourrait faire rire, hein, mais en fin de compte, la loi belge propose un statut spécifique pour les associations internationales sans but lucratif, et donc ce sont des associations qui regroupent par secteur les plus grosses entreprises. Et donc là, il y en a plus d'un millier qui sont basées à Bruxelles, et vous en avez pour absolument tout ce qui peut être produit ou vendu comme service. Donc vous avez l'association européenne des représentants automobiles, des brasseurs de bière, de la construction automobile. Donc on peut faire une liste comme ça sans fin de toutes les formes d'associations qui existent. Une des plus fortes, c'est le CEFIC, qui réunit elle-même 200 associations et qui défend toute l'industrie chimique. Et toutes ces associations-là donc, sont basées à Bruxelles et sont des interlocuteurs quotidiens des institutions européennes. Donc bon, il y en a plus d'un millier, donc je ne vais pas toutes vous les faire. Mais il y en a vraiment pour tout, le fer, la pêche, le chlore, le commerce, les hôtels, tout, voilà, tout ce qui peut exister est représenté par une association européenne et qui sont assez actives. Donc on peut s'amuser à les inscrire aussi dans le maillage urbain, comme Olivier Benet l'avait fait pour les journalistes, et on voit qu'elles sont bien sûr au même endroit, c'est-à-dire dans cette espèce de triangle institutionnel qui va du Parlement en passant par la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Comment fonctionnent ces associations qui sont un peu un des leviers fondamentaux de la représentation d'intérêts? Dans les années 60, ces associations, c'était un peu sur le modèle de ce que je disais tout à l'heure pour le Business Europe, c'était une confédération d'associations nationales. C'est-à-dire, c'était une association regroupant, par exemple, si on prend l'association des producteurs de lait industriel, c'était les producteurs de lait industriel français, les producteurs de lait industriel allemand qui se mettaient autour d'une table et finançaient une association à Bruxelles qui élisait elle-même un bureau, un président qui avait ses salariés, etc. Depuis les années, donc ça s'est élargi au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on faisait rentrer de nouveaux pays dans l'Union européenne, on élargissait le nombre de fédérations nationales. Ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'en fin de compte, les entreprises elles-mêmes ont dépassé un cadre d'activité nationale, ce qui fait qu'une entreprise comme Candia, par exemple, ou Lactalis, les producteurs de lait, si on regarde toujours cet exemple-là, n'ont pas une activité qu'en France, elles sont bien souvent une activité quasi européenne, voire mondiale, et donc ils se sont retrouvés qu'à cotiser pour chacune de ces structures-là. Et donc elles cotisaient pour les structures nationales à différents niveaux, qui elles-mêmes cotisaient pour une fédération européenne. La tendance actuelle est un effacement du poids de ces syndicats nationaux pour une gouvernance directe par les entreprises de ces fédérations européennes. Ce qui change bien sûr là aussi la donne, c'est que bien souvent maintenant les principales firmes multinationales d'un secteur, à travers leur siège Europe, financent ces associations, élisent directement un président qui lui-même va représenter donc les intérêts européens. Donc par exemple ici maintenant ce que vous avez c'est des firmes multinationales qui ont au moins un siège en Europe, mais qui donc ont une forme de, on va dire, qui cotisent pour qu'une association donc porte une série d'argumentaires au nom des entreprises du produit laitier industriel européen. Et cette association donc là a souvent les moyens de se payer un staff permanent avec différents comités, différents salariés qui sont en charge de plusieurs dossiers. La particularité de ces associations, c'est que ce sont des associations qui fonctionnent sur un modèle délibératif, c'est-à-dire qu'en fait toutes les entreprises sont autour de la table et il faut parvenir à une forme de consensus commun pour pouvoir porter des positions communes. Et donc là, le rôle de ces salariés, de ces associations-là, c'est de parvenir à produire une forme de consensus en interne pour qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Donc par exemple, si vous prenez l'IFPIA, qui est l'association de l'industrie pharmaceutique européenne, elle produit chaque jour des positions au nom du secteur pharmaceutique européen, mais ses membres peuvent être aussi des gens qui produisent des médicaments génériques, des médicaments brevetés, etc. Et donc, dans ces associations, se produit une forme de consensus. On fabrique du politique à partir d'intérêts économiques discordants. Et en fait, ce qui se joue dans ces associations est tout aussi important que ce qui se passe après quand on voit des gens porter des positions auprès de la Commission européenne. C'est qu'il y a dans ces associations une forme de mise en forme, hein, de mise en ordre de marche des intérêts économiques, une production de consensus qui permet d'aplanir les contradictions possibles et de parvenir à produire des positions qui sont des positions politiques qui peuvent être recevables par la Commission. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fin de compte, ces positions-là sont souvent des positions très très techniques. C'est-à-dire, ça c'est un position paper de Hamsham EU, hein, des entreprises américaines. Souvent vous allez avoir, c'est des entreprises américaines, ce texte, qui se positionnent par rapport à une directive en cours sur l'efficacité énergétique des buildings. Est-ce que les buildings vont dépenser ou pas beaucoup d'énergie? Donc en général, les position papers ont deux parties. Vous allez avoir un topo général où, bien sûr, les entreprises américaines rejoignent les préoccupations de la Commission en matière d'environnement et d'écologie. Et puis vous avez une deuxième position où sur la partie là de gauche, c'est voici le texte de loi. Vous ne voyez pas très bien, je suis désolé, mais là, il y a écrit article 12. Donc en fait, on a pris le projet de directive. Et donc là, vous avez le texte tel que vous l'avez écrit, le texte tel que nous, on aimerait le voir écrit. Et ça, c'est mis en circulation avant que ça passe au Parlement européen. Donc ça, c'est mis en circulation et c'est soumis à la Commission européenne avant même que le texte soit diffusé auprès des parlementaires. Après, on peut essayer, effectivement, comme les journalistes du Sun, essayer d'acheter. Mais là, c'est vraiment des formes d'expertise juridique qui sont enrôlées dans le processus de décision administratif. Et bien sûr, la capacité des entreprises à produire des argumentaires juridiques à payer des avocats, à payer des experts. Alors là, c'est un cas, on va dire, dans le bâtiment. Mais vous avez beaucoup de dossiers en ce moment sur les questions chimiques, toxicologiques, quel taux d'exposition pour les salariés à des produits dangereux dans les usines, etc. Là, ça va être bien sûr des docteurs en toxicologie qui travaillent pour ces associations-là, qui vont produire ce type d'argumentaire-là. Et donc la force du lobbying, ce n'est pas tant d'acheter des gens, des parlementaires, etc., que de proposer clé en main une forme d'expertise juridique ou administrative qui est prête à voter, hein, prête à intégrer dans la législation. Ce que ne parvient pas à produire en face des associations. Les Greenpeace est incapable de rentrer dans le détail de tous les textes de loi pour produire un texte juridique très précis. Et en fin de compte, ce qui fait la force du lobbying, tel qu'il est structuré à Bruxelles, c'est la faiblesse de l'administration qu'elle a en face. C'est-à-dire que la Commission européenne est sous-équipée, sous-dotée. Un agent de l'Agence chimique européenne, un fonctionnaire de l'Agence chimique européenne, doit classifier des milliers de produits chimiques. Et il a en face de lui des acteurs qui arrivent en lui disant « Voici 250 pages de rapport sur la diffusion dans l'air des taux de nickel dans une usine. » Et donc là, il y a bien sûr, à travers l'expertise, hein, la possibilité pour les acteurs économiques d'avoir une influence parce qu'ils produisent des textes qui sont directement intégrables dans les processus de décision administratifs. Ce qui fait que quand on revient sur notre association comme tout à l'heure, chaque salarié qui dirige un de ces comités thématiques du type environnement, etc., est directement contacté par la Commission européenne et réciproquement. C'est-à-dire que souvent, le chef de bureau de la Commission européenne s'adresse directement à la personne qui en face s'occupe de faire le lien entre toutes les entreprises européennes. Et on lui demande, par exemple, est-ce que tu peux me donner le nombre d'employés du secteur du produit laitier industriel en Europe ? Et la personne, bien sûr, lui donne l'information, etc. Et donc, il y a une coproduction permanente, comme ça, des textes administratifs européens, à travers la relation qui se noue chaque jour entre ces associations sans but lucratif, bien sûr, et la Commission européenne. Voilà, donc en terminant, j'arrivais pile à mon slide de conclusion, tout est parfait. Donc dire, si on devait avoir une réflexion citoyenne là-dessus, ce serait de dire comment il est possible, alors qu'on a des lois anti-trust, anti-concurrence, etc., qu'en fin de compte, il est impossible pour les entreprises de s'entendre sur les prix. Et d'ailleurs, c'est très souvent rappelé en réunion dans ces associations, on distribue des petits textes en disant « on vous rappelle que vous n'avez pas le droit de vous entendre sur les prix, mais on peut s'entendre sur tout le reste. » C'est-à-dire la stratégie qu'on va mettre en place pour défendre certaines normes au profit d'autres, etc., comment on va pouvoir faire de l'influence auprès du pouvoir politique. Et donc, il y a une réflexion citoyenne à mener sur c'est quoi ces associations sans but lucratif qui, en fait, n'ont que pour seul but de faire plus d'argent. La deuxième question, c'est comment cette forme de lobbying rencontre des logiques de productivité administrative. Et donc, penser ensemble la faiblesse d'un côté des institutions de l'Union européenne en termes de nombre de fonctionnaires, de capacité d'expertise, de turnover aussi, parce que les gens viennent souvent 2 ou 3 ans depuis des administrations nationales, puis reviennent dans leur pays. Et en face, hein, une forme de prêt à voter ou de prêt à intégrer. Et ça, c'est important aussi pour sortir de l'idée que le lobbying, c'est que de l'influence ou des gens qu'on doit convaincre ou corrompre. Bien souvent, il n'est pas forcément besoin de beaucoup convaincre les gens qui en face, parce qu'ils peuvent aussi partager, les fonctionnaires de la Commission européenne peuvent très largement partager les principes libéraux ou de régulation des marchés. Donc c'est pas tant de les convaincre que de leur fournir des textes qui sont prêts à voter. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion citoyenne sur qu'est-ce que c'est qu'une administration, un intérêt public, et ce que pourrait être un intérêt public européen. Je termine juste sur une anecdote. Il y a quelque temps, la Commission européenne, après ce que tu évoquais, Frédéric, c'est-à-dire sur la crise des subprimes, etc., la France a voulu mettre en circulation l'idée qu'on allait faire une directive pour réguler les marchés financiers. Et donc, on a mis en circulation cette directive. Et au bout de quelques mois, en fin de compte, on a dû arrêter tout le processus parce que le texte qui était préécrit par cette logique que je viens de décrire était plus... était moins protecteur que la législation française. Donc les Français ont dit stop, on arrête tout. Et donc la Commission européenne a commencé à lancer, à clairement tenser les ONG, et notamment Greenpeace, en disant comment se fait-il que vous n'avez participé à aucun moment à l'expertise en termes de fiscalité, de questions financières, etc. Et donc on est dans un système où, en fin de compte, la Commission reproche au tiers secteur, aux ONG, de ne pas produire d'expertise sur ces questions-là. Et donc Greenpeace a répondu, parce qu'on n'a personne pour faire ce travail très précis d'argumentation. Et donc la Commission a donc proposé de monter à partir de rien une nouvelle ONG qu'elle financerait à hauteur de 3 millions d'euros, qui permettrait de produire cette contre-expertise fiscale. Donc, vous voyez le type de raisonnement qu'on a. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer d'internaliser la compétence fiscale dans l'administration avec l'idée que ça pourrait être, il pourrait défendre l'intérêt public, on est allé chercher donc, un bout d'ONG danoise contre la corruption, un bout de différentes ONG pour essayer de créer un contrepoint en matière d'ONG, mais pas d'internaliser ça comme une compétence. Donc, ça, voilà, c'est une réflexion générale sur c'est quoi ce mode de gouvernance européen où la légitimité, c'est l'expertise et pas nécessairement l'élection ou l'intérêt public.
Bien, mais il y a désormais un micro pour des questions dans la salle. Je pense qu'on merci d'abord de vos interventions. Je pense aussi qu'on pourra sans doute faire des passerelles avec notamment l'intervention d'Anne Dufresne hier sur les eurosyndicats. Est-ce qu'il y a des interventions ? Donc on va prendre peut-être plusieurs interventions et puis ensuite laisser la parole.
Oui, moi j'ai deux questions pour Frédéric. À l'écouter, je me disais vraiment de l'intérêt qu'il y a pour nous à se familiariser avec la macroéconomie. C'est ce que j'essaye de faire, mais bon, parfois c'est un petit peu difficile. Donc première question qui relèvera du domaine de la compréhension. Il m'a semblé que, d'après ce que je peux savoir, pendant la crise, donc les banques centrales des États terriblement endettées parce qu'ils avaient renfloué le secteur bancaire, avaient fait marcher la planche à billets donc pour racheter une partie de leur dette et qui donc avait provoqué donc une dynamique inflationniste sortie de leur pratique habituelle. Je me demande même si c'était, enfin bon, passons. Mais ce que je me demandais, c'est si finalement la méfiance vis-à-vis des politiques de relance ne se justifiait plus seulement par l'hostilité vis-à-vis de politiques qui pouvaient conduire à de l'inflation, mais aussi par le fait que comme ils avaient déjà fait un écart par rapport à leur pratique habituelle qui avait déjà provoqué de l'inflation, il était encore moins question de se lancer dans des politiques de relance, ce qui justifierait peut-être cette idée de la théorie du choc, c'est-à-dire que finalement le fait qu'on doive s'écarter de sa pratique habituelle, finalement, conduise à finalement encore plus s'interdire des politiques de relance. Alors c'était juste une question de compréhension, pour voir si j'ai bien compris ou si ça peut s'expliquer en ces termes. Deuxième question, je t'avais entendu il y a, je ne sais pas, un peu plus d'un an dans un autre contexte, et tu intervenais sur la question, en plein milieu de la crise, tu te demandais les effets de cette crise importante sur les croyances économiques, etc., et tu essayais de montrer... donc à travers le champ des économistes, etc., finalement, il m'a semblé que ce que tu montrais, c'était quand même que tu avais l'impression que les économistes ne pourraient pas sortir indemnes de cette crise. Dans ton intervention, tu ne parles pas des économistes, mais des banquiers centraux. Tu expliques que finalement, ça n'a rien changé, qu'il y a le maintien de l'orthodoxie, etc. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut passer de cette orthodoxie des banquiers centraux au maintien à tout prix d'une position qui reste la même, au fait que les économistes dans leur ensemble, finalement, les économistes qui soient d'ailleurs, bon, peu importe, les économistes, continuent comme avant, malgré la crise. Et à ce moment-là, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, à un moment, si c'est le cas, tu as cru que ça allait changer ?
Je réponds tout de suite ou on prend d'autres questions peut-être.
Deux questions, une pour Sylvain Laurence et puis une autre pour Frédéric Le Baron. Donc juste une question de compréhension pour Sylvain Laurence à propos des papiers de position. Juste savoir comment est-ce que concrètement ça se passe pour que les fonctionnaires de Bruxelles en prennent connaissance. Ils sont publiés et du coup ils les lisent ou ils reçoivent dans leur bureau les représentants des associations en question qui leur font part donc de ces papiers de position. Bon voilà, juste très techniquement, très concrètement comment ça se passe. Et donc pour Frédéric Le Baron, donc je me posais la question donc puisque vous évoquez donc les différentes périodes. Donc en gros, on a la période, le cas général qui est voilà la banque centrale, le banquier central a peur de l'inflation. Il a peur de l'inflation et donc il a surtout peur de la relance de type keynésien. Il a peur de la situation des années 70-80 en gros et d'une inflation débridée qu'on n'arrive plus à arrêter. Donc le banquier central, ça il sait faire, il met une politique monétariste pour limiter l'inflation. Et du coup, la question que je me posais, c'est sûr, donc, et on a retour sur cette situation-là depuis la crise grecque, quoi, en gros. La question que je me posais, c'est au niveau donc, des termes utilisés, donc de la langue du banquier central, qu'est-ce qui s'est passé dans la période un peu exceptionnelle qu'il y a eu entre les deux ? c'est-à-dire la période où, d'un seul coup, le banquier central, alors d'abord américain et puis ensuite européen, ce qui est encore plus extraordinaire, a eu peur non plus de l'inflation, mais de la déflation. Et on a justement une situation un peu extraordinaire où, d'un seul coup, le banquier central ne sait plus quoi faire parce qu'on a peur de la situation à la japonaise. Et est-ce qu'on a vu apparaître justement dans les discours des banquiers centraux des mots assez inédits comme déflation, peut-être même comme demande, ou bon, j'ose même pas parler d'équilibre de sous-emploi. mais voilà, est-ce qu'il y a eu quand même un petit changement dans le discours à ce moment-là, ou alors est-ce que le changement a juste été technique avec donc la réduction des taux et les interventions exceptionnelles?
Je voudrais juste poser une question sur, dans la croissance économique, sur le problème de l'indépendance des banquiers centraux, quoi, par rapport au pouvoir politique ou par rapport au pouvoir économique, puisque leur apparente légitimité vient de cette indépendance proclamée, quoi. Donc comment vous pourriez montrer sur quel type de croyance repose cette indépendance?
Peut-être encore une question.
Moi, j'aimerais avoir des informations concernant les agences de notation. Il m'a semblé qu'elles avaient un rôle important dans les décisions supra-économiques. Et en fait, on ne sait pas trop qui représente ces agences de notation. Et voilà. Et concernant... moi, je suis depuis le début, là, et j'ai l'impression qu'en fait, on formalise une espèce de supra-société, notamment au niveau européen, avec des acteurs qui manipulent le langage, qui créent des vraies fausses associations. Donc je me pose des questions sur les rapports de force et les solutions à trouver, en fait.
J'avais une question pour Frédéric.
Oui, moi j'en ai une pour toi.
J'étais assez surpris quand j'étais justement sur une rencontre avec des lobbyistes de l'assurance, du ton très critique qu'il y avait vis-à-vis de la crise financière à l'égard des banques, alors même qu'il y avait tout un discours, dans les années 80 autour de François Morin, tout ça, de dire il y a une fusion du secteur assurance, banque, etc., BNP, AXA, etc. Mais en fin de compte, là, je me demande si l'effet de retour aussi, il n'est pas dû, est-ce que d'après toi, il n'est pas dû aussi à une forme de rappel à l'ordre du secteur d'assurance qui est quand même a dû éponger aussi à travers ces primes-là une série d'échecs. Donc en fait, du coup, est-ce que le côté retour à orthodoxie, il n'est pas dû aussi à une division interne au secteur financier entre ceux qui me faisaient tourner la planche à billets et ceux qui assuraient le risque en cas de non-liquidation?
Alors, il y a vraiment beaucoup de questions, donc je vais aller très vite sur chacune, donner une sorte de schéma de réponse, quoi. Ça va être dur de faire beaucoup plus. Alors, les questions de Stanislas. D'abord, je n'ai pas très bien compris à quel pays tu faisais référence, en fait. Dans ta première question, si tu parlais des États-Unis, si tu parlais de la situation européenne, où il y a une banque centrale, la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas une banque centrale, enfin, il y a une banque grecque, mais qui fait partie d'un système, hein, dans la zone euro, elle est évidemment... complètement, elle est partie prenante. Le gouverneur, il est membre du conseil des gouverneurs de la BCE et il agit à ce titre-là. Donc là, il y avait un peu un flou dans ta question, mais tu as raison de dire que, oui, pour le banquier central, il n'y a pas que l'inflation, évidemment, comme facteur d'instabilité financière. Les critères de Maastricht, déjà, les critères qui sont devenus ceux du pacte de stabilité et de croissance, c'est précisément des critères formalisés en partie par les banquiers centraux, pas que les banquiers centraux, ils ne sont pas seuls, hein, évidemment. Là encore, il faudrait analyser de manière plus large les réseaux dans lesquels ils sont pris, notamment à la Commission et du côté des acteurs politiques, mais pour attirer l'attention sur les menaces que l'endettement public faisait planer, et depuis longtemps, sur la stabilité financière, sur les politiques. Et donc, c'est pas du tout nouveau, hein, cette préoccupation, elle est ancienne. Ce qui est intéressant, c'est que la crise n'est pas venue immédiatement du surendettement public, mais d'un surendettement privé, qui n'avait pas du tout, pour le coup, été intégré. C'était évidemment pas du tout un des critères, un des indicateurs sur lesquels se fondaient les banques centrales. C'est dans un deuxième temps, en gros, que les dettes publiques sont venues relayer les dettes privées. C'est en gros ça, le schéma général de la crise des subprimes. Mais évidemment, à ce moment-là, les banquiers centraux ont retrouvé leur thématique habituelle. Peut-être ça me permet de répondre tout de suite à la question sur qu'est-ce qu'ils font quand il y a des menaces déflationnistes et que certains économistes disent on va vers la déflation. Certains le disent encore d'ailleurs, hein, c'est pas un discours qui a disparu, hein, du côté de l'OFCE en France ou de gens comme Krugman ou Stiglitz. Il y a un peu ce discours qu'en Europe, en tout cas, on a encore des pressions déflationnistes importantes, même si là, avec l'augmentation du prix des matières premières, c'est un discours qui est en train de battu en brèche. Alors là, il y a eu une stratégie rhétorique assez amusante qui était de dire l'objectif, c'est 2%, mais c'est proche de 2%, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de descendre trop bas. Voilà, c'est à peu près ça, la petite... donc, c'est un petit glissement, c'est tout, c'est de dire simplement, bah oui, mais ça vaut dans l'autre sens, c'est-à-dire que si le taux d'inflation descend trop bas, bah, il faut le ramener vers les 2%, implicitement, sans aller très loin là-dedans. Les termes, il y a peu d'inflexion, hein, c'est vraiment... c'est des termes techniques qui sont surutilisés. Donc ça, j'ai fait un peu de statistiques là-dessus, pour quels étaient les termes surutilisés, c'est liquidité, c'est crise, c'est la description du contexte, et en gros, la description des opérations qui sont menées. Sinon, l'adjectif qui ressort, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On est dans une situation exceptionnelle. Voilà, il fallait tout de suite cadrer en disant que c'est quelque chose qui n'allait pas perdurer, quoi. Et très vite, il y a sortie de crise qui vient aussi. Enfin bon, voilà. Mais là, bon, il faudrait une analyse plus approfondie. Alors, est-ce que les croyances des banquiers centraux ont un peu changé ? Oui, elles ont quand même un peu changé. C'est-à-dire que là, j'ai évidemment insisté sur la continuité, parce que c'est la continuité qui prévaut, me semble-t-il, chez les banquiers centraux, hein, un type d'acteur. Mais bon, eux-mêmes disent... dans l'enquête l'enquête du CAE, 90% des économistes et des banquiers centraux estiment que la crise a changé à la fois les objectifs et les instruments des banques centrales. C'est quand même, ils sont obligés d'acter le fait qu'il y a eu un changement majeur quand même. Ça, c'est quand même pas tout à fait rien. Ils le constatent. Ils disent, bah oui, les objectifs ont changé, effectivement, dans ce contexte extraordinaire. On a fait des choses nouvelles, des politiques non conventionnelles, etc., etc. Donc, ils sont obligés de reconnaître que les objectifs et les instruments ont changé. Et je pense que, pour une part, leurs croyances, de ce fait-là, sont ébranlées, à tout le moins. C'est-à-dire qu'il y a un effet. Simplement, cet effet, il est vraiment très mineur, très limité dans le cas des banquiers centraux. Il est, pour moi, beaucoup plus important dans le cas des économistes. Donc, je maintiens qu'il y a eu un bouleversement assez profond, des phénomènes de conversion assez nombreux, quand même, une radicalisation du côté d'économistes relativement modérés qui, dans le contexte notamment européen, sont maintenant assez critiques sur les politiques économiques. Bon, il y a le phénomène Krugman-Stiglitz, c'est-à-dire l'apparition aux États-Unis d'un courant néo-keynésien qu'on avait tendance à décrire comme bon, c'est des libéraux un peu plus progressistes, mais en gros, ils sont comme les monétaristes, comme les nouveaux classiques. On dit néo-keynésien simplement parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes hypothèses sur les rigidités de prix. Enfin, ils ont quelques désaccords théoriques, on va dire, mais qui, en fait, quand on lit leurs prises de position successives depuis un peu avant la crise des subprimes, ça a en fait commencé avec l'ébranlement du consensus de Washington, enfin, c'est un processus continu, ont des prises de position macroéconomiques beaucoup plus radicales, beaucoup plus critiques, jusqu'à Jeff Sachs, qui va chez Éric Besson communiquer dans un colloque qui s'appelle « Nouveau monde, nouveau capitalisme » au mois de janvier. Tout est en ligne, hein, si ça vous intéresse. Vous pouvez voir les communications. Et Jeff Sachs, qui est quand même celui qui a un des économistes qui ont conseillé les débuts de la transition en Russie dans les années 90 sur des positions plutôt libérales, il s'agissait de créer les marchés, etc., a des positions radicales, notamment sur le lobbying, d'ailleurs, en matière de politique environnementale. Il dit aux États-Unis, ce sont des intérêts privés qui font la politique. Enfin, il a des prises de position vraiment très radicales qui, à mon avis, ont été exacerbées par le contexte de la crise. Là, il y a des phénomènes comme ça. Évidemment, faute d'enquête, il y a cette enquête qui quand même fait apparaître des déplacements notables chez les économistes. Chez les banquiers centraux, c'est beaucoup moins vrai. Cette enquête du CAE, et puis il faudrait multiplier les enquêtes en ce sens pour en savoir un peu plus. Moi, le travail que j'ai fait était surtout un travail à partir des prises de position publiques et des textes, où déjà on voit quand même toute une série de ruptures que j'ai essayé de documenter dans le bouquin La crise de la croyance économique, en fait, hein, pour le cas français principalement, d'ailleurs. Voilà. Et puis, oui, sur la question de Sylvain, pour dire que, oui, alors ce qui se produit, me semble-t-il, avec la crise, c'est une sorte de divergence interne au monde patronal ou du business, pour prendre l'expression bruxelloise, avec des oppositions plus fortes entre le secteur bancaire, le secteur financier et l'industrie. Là, clairement, on voit réapparaître des discours plus critiques de la financiarisation du côté des représentants de l'industrie. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on a un peu la même chose du côté des assurances, c'est-à-dire, en fait, nous, on n'est pas responsable de tout ça, hein, c'est les institutions financières qui ont fait n'importe quoi, et on va en payer en partie le prix, et c'est les banques qu'on renfloue, finalement, c'est-à-dire c'est elles qui tirent les bénéfices. Bon, on est dans un univers concurrentiel et de rivalité financière, donc je pense qu'il y a des oppositions internes au champ économique qui sont extrêmement fortes, qu'il ne faut pas minimiser et qu'il faut au contraire essayer de comprendre, parce qu'elles bougent beaucoup, elles bougent très vite aussi, donc des alliances qui se recomposent. Donc il est possible, c'est une hypothèse, hein, moi je prendrais ça comme une hypothèse, que ce front commun banque-assurance qu'on observe effectivement au sein du MEDEF, dans divers contextes d'organisation patronale, ait été fissuré aussi par la crise. Une crise comme ça, ça a des effets, c'est-à-dire c'est un peu comme le choc sur une centrale nucléaire, c'est des fissures qu'on ne voit pas tout de suite, puis on se rend compte que finalement... il se passe... Non mais c'est vrai, je prends la métaphore et peut être, je viens de l'inventer. Hein, mais... Alors sur les agences de notation, non, il y avait deux questions. Sur l'indépendance des banquiers centraux, question très très vaste, mais évidemment c'est très important. C'est un point central dans toute la discussion sur les banquiers centraux. Il y a les économistes construisent des indicateurs d'indépendance. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Comment on construit un indicateur d'indépendance d'une banque centrale? Des économètres qui après font tourner des régressions pour dire que plus la banque centrale est indépendante, en gros, et plus le niveau des prix, enfin le niveau d'inflation est bas. Plus bas au niveau d'inflation, donc ça marche bien, sauf que ça marche en fait que sur les pays les plus développés pour une certaine période, ça marche plus du tout depuis pas mal de temps, d'ailleurs il n'y a plus de travaux comme ça, et puis ça marchait pas non plus pour l'ensemble des pays du monde, enfin, c'était, quand on regardait de près cette littérature, c'était assez fragile. Mais pour revenir à la question de l'indépendance, il est clair que c'est une des clés d'explication des différences entre la Banque Centrale Européenne et la Fed. La Banque Centrale Européenne étant objectivement plus indépendante. Son mandat est plus restrictif, de fait, et elle le prend dans un sens plus restrictif. Et selon différents critères d'indépendance, légale, fonctionnelle, parce qu'il y a différentes façons de définir en fait, l'indépendance, la BCE est vraiment la Banque Centrale la plus indépendante. Mais alors, évidemment, indépendant ne veut pas dire pas politique. C'est-à-dire, ils sont fondamentalement politiques. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes travaux. C'est-à-dire, on est vraiment là dans les croyances. C'est-à-dire, l'indépendance sert effectivement un certain type de politique économique, et en l'occurrence, une forme de monétarisme radical, d'ordolibéralisme à l'européenne. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu plus complexe. L'indépendance est assez forte globalement, mais il y a l'objectif du plein emploi, d'une part, sur le plan des textes, la constitution de la banque elle-même, et une tradition de sensibilité à la conjoncture qui me semble plus forte. Donc voilà, il faut intégrer dans la réflexion sur l'indépendance comment fonctionnent les conseils et les banques, et aussi qui sont les acteurs. Bon, là, j'ai pas le temps de développer ça, mais qui viennent pas de nulle part. Être indépendant, ça ne veut pas dire être simplement un scientifique qui a fait ses preuves en faisant une thèse évaluée par les pairs, etc. C'est évidemment bien plus complexe que cela. Même si les ressources d'expertise, ça, c'est ce qui me frappe en écoutant aussi Sylvain, les ressources d'expertise sont omniprésentes. On est dans des univers très techniques avec des ressources extrêmement fortes. Et là, pour le coup, c'est très très difficile d'opposer un contre-discours un peu technique parce que le coût d'entrée est extrêmement élevé. Sur les agences de notation, pour finir, je m'arrêterai. Pour le coup, voilà un bel objet pour la sociologie économique et la sociologie des institutions financières. Curieusement, les gens qui ont fait des études sociales de la finance dans les années 90 ne sont pas tellement intéressés à ce type d'acteur, alors que manifestement, c'est un acteur qui a un rôle en termes de production de croyances justement fondamental et des effets financiers. Bon, on le voit bien dans le cas de la crise de la zone euro, hein, c'est évidemment elles qui sont au premier plan. Elles sont en partie liées aux institutions financières selon des modalités diverses. Elles ne sont pas forcément très hautes en termes de prestige, c'est-à-dire faire carrière dans les agences de notation, ce n'est pas forcément le top du top, mais fonctionnellement, elles sont évidemment stratégiques. Évidemment, l'un des débats, c'est on les accuse évidemment d'être juges et parties en tant qu'institutions privées liées au marché financier qui évaluent la dette des États, mais aussi la dette des firmes. Elles évaluent toutes sortes de produits financiers, elles notent. Donc voilà, bel objet en tout cas sur lequel il faudrait un travail à la fois de, sans doute, un travail scientifique déjà, mais aussi un travail de contre-expertise qui manque aussi cruellement sur toutes ces questions. C'est ce qui me frappe en écoutant Sylvain. Voilà, qui je donne la parole.
Sur les agences de notation, il y a pour le coup, il y a un super repère à la découverte qui a été écrit par quelqu'un qui travaillait là et qui retrace l'histoire de comment elles ont été créées, etc., et comment elles ont élargi leur champ d'action de la notation des entreprises aux États, etc., et qui est déjà une première vie. Mais c'est pas un travail sociologique, mais c'est un travail assez objectif, en fait. Donc c'est déjà un premier point qui pourrait être pas mal, si ça vous intéresse, de vous lancer dans une thèse là-dedans. L'autre truc, c'est, en fait, pour les papiers de position et la mise en circulation des papiers de position, la question du monsieur, il y a un peu deux phases dans ce type de démarche. Il y a une première phase où ça se joue dans l'autre sens. C'est d'abord la commission qui essaie de diffuser le papier sur lequel il faudrait produire un papier de position. Et donc la course en fait, des lobbyistes, c'est d'avoir le premier brouillon, le premier draft, comme ils disent, en amont et le plus tôt possible dès qu'il y a une nouvelle. Et donc il y a plusieurs façons de l'avoir. C'est soit vous connaissez très bien le chef du bureau qui est en train d'écrire le texte et vous vous retrouvez dans un restaurant et on vous le donne en format papier dans une enveloppe. Donc il y a des gens qui se baladent dans le métro avec des enveloppes. Soit, et pas avec des enveloppes avec de l'argent, des enveloppes avec des textes de loi. C'est ça aussi l'écart entre la démarche dénonciation et autour de la corruption et la réalité des choses. Et l'autre possibilité, c'est qu'en fait, la déchet entreprise vous le donne. Parce qu'il y a quand même une spécificité de la Commission européenne, c'est qu'il y a une direction générale, une DG, qui a pour tâche et objet d'aider les entreprises. C'est la DG entreprise. Il n'y a pas de DG citoyen, je vous rassure. Il y a une DG entreprise. Et donc, en fait, dès qu'il y a un texte qui pourrait toucher une entreprise, la DG entreprise appelle la personne, enfin, l'association et elle leur transmet une version plus ou moins préparée du texte. Et dans ce cadre-là, il n'est pas rare que des agents de la Commission européenne se déplacent dans l'association et entendent un premier son de cloche de tous les adhérents de l'association. L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir déminer les éventuelles résistances. Et donc, il n'est pas rare que l'association offre une plateforme de résonance du texte en cours. Et donc, on sait déjà quels sont les Polonais vont être contre. La force des associations, c'est qu'elles offrent déjà en miniature un consensus européen, en fait, comme elles ont des associations de, toutes les, de tous les pays. Et dans cette première étape-là, il n'y a pas vraiment de papier de position publique parce que c'est un peu, on essaie de se positionner, etc. Et puis, vient une deuxième phase où là, par contre, effectivement, il faut produire un papier de position parce que le dossier va devenir public. Et donc, quand la Commission lance le texte et le met en circulation au Parlement ou ailleurs, là, il faut que vos papiers de position soient publics et qu'on ait ce jeu d'articles publics. Et donc là, c'est mis sur le site Internet et c'est rendu public pour une bonne et simple raison. C'est qu'en fin de compte, le Parlement européen a surtout pour fonction d'enregistrer l'état des rapports de force économiques. C'est-à-dire, il est rare que sur un sujet, vous soyez tout seul. Et donc, bien souvent, vous allez être opposé à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous pour telle ou telle norme, etc. Donc, à partir de là, le papier de position, c'est un peu votre marque de fabrique. On sait ce que vous défendez. Et donc, si les amendements portés au sein du Parlement européen sont proches de vos papiers de position, la Commission européenne, quand elle va devoir reprendre le texte après le passage au Parlement européen, elle ne va pas appeler les députés qui ont posé les amendements. Elles vont appeler les associations qui ont fait les amendements les plus proches. Et donc, les gens de la Commission européenne savent très bien qui est derrière les amendements. Donc, quand il s'agit de réécrire le texte, ils rappellent directement les personnes qui ont déposé les amendements. Et donc là, il y a l'idée qu'en fait, le Parlement européen, c'est un peu un état de... C'est une photographie des rapports de force économiques sur ce qui n'a pas été tranché en amont. Donc là, le papier de position, il est important qu'il ait circulé parce qu'il faut que la personne de la Commission sache que c'est vous qui l'avez écrit au départ. Voilà. Et alors, pour les solutions, par contre, là, je le sèche. Non, il n'y a pas de solution. Enfin, en fait, le problème, c'est, enfin, je peux, à part, le gros danger, ce serait un repli purement quasi nationaliste, en disant non, mais de toute façon, mais en fin de compte, ça marche aussi pareil en France en partie. Donc la question, c'est comment on peut avoir une réflexion, je pense, sur ça marche, comment on doit marcher des institutions publiques. Et bon, voilà, j'ai donné une série de petites pistes en détail, mais. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des associations qui sont sans but lucratif, où on peut s'entendre sur tout sauf les prix, et en même temps, c'est vraiment les prix, c'est qu'un élément dans le marché. Donc, voilà, une réflexion citoyenne là-dessus, c'est pourquoi ces associations ont le droit d'exister et fonctionner telles qu'elles fonctionnent. Des associations dont les seuls membres sont des entreprises et qui, en même temps, du coup, produisent des positions politiques. Donc ça, il n'y a pas de réflexion vraiment là-dessus. C'est quand même un peu décalé par rapport à la force qu'elles ont. Voilà. Et l'autre chose, c'est la réflexion sur... un mode de gouvernance européen qui privilégie l'expertise plutôt que le mandat électif, et un mode de gouvernance européen qui se fait à économie de moyens constants, c'est-à-dire toujours plus de dossiers à traiter, mais toujours assez peu, en fin de compte, de fonctionnaires, et donc peu de gens qui peuvent avoir un point de vue véritablement censé être en dehors en partie, en dehors du privé. Donc voilà, il pourra avoir des leviers de ce côté-là, mais après, je pense que voilà, on est très loin de pouvoir fournir des positions directement atteignables. Mais si ce n'est déjà être lucide sur la situation. Je pense qu'un des problèmes qu'il y a avec le discours sur la transparence, la mise en place d'un registre, par exemple, par la Commission européenne qui a enregistré les lobbies, c'est qu'en fait, une fois qu'on saura qu'ils sont là, ça ne nous dira pas nécessairement comment on fait pour transformer tout le... Et quelque part, ça consacre même le système parce que ça le rend... On dit, voilà, on est officiel, on est dans le registre de la Commission, on n'est pas masqué, on est là, on est... Donc voilà, c'est peut-être une première étape, mais en tout cas, c'est loin de résoudre tout. Mais ce serait exactement ce que vous diriez de faire la Commission. Le problème, c'est est-ce que votre lobbying social pourra peser autant voilà. Donc, le jour où il y aura un lobby pour la Révolution, on aura parfaitement achevé ce processus de pacification des intérêts.
Alors peut-être qu'on peut prendre encore 10 minutes pour d'autres questions, une ou deux questions, ou trois, si les réponses sont...
Je voulais poser une question sur... Donc, vous les exposez, c'était sur des structures supra-étatiques. Quelle est la dialectique entre ce qui se passe dans les deux cas et puis toutes les contradictions entre les États auxquels on assiste en ce moment, avec, qui deviennent explosives, avec la situation internationale et qu'il y a quand même des guerres, où, notamment avec le cas de la Libye, où les pays émergents sont contre et l'Union européenne est divisée. Et l'autre question, alors, ça c'est par rapport aux États, et aussi par rapport aux mouvements sociaux. Est-ce que ces structures arrivent à fermer les fenêtres suffisamment de manière hermétique pour qu'il n'y ait pas d'influence des mouvements sociaux, ou bien ça arrive d'une manière indirecte, diffractée, je ne sais pas, ou bien ils arrivent à être suffisamment entre, dans un discours produit entre eux pour être à l'abri de ce qui se passe comme mouvement, et qui est quand même extrêmement étranger à ce que vous avez décrit, quoi.
Je peux déjà répondre sur la question des nations, enfin des rapports entre nations sur à propos de la Banque Centrale Européenne. Bon, déjà, à propos de... On pourrait dire plus largement des banques centrales, c'est un point que je n'ai pas du tout évoqué, mais la politique de la Fed, ce qu'on appelle quantitative easing, surtout la deuxième mouture, c'est une politique très nationaliste, en fait, très non coopérative, qui a d'ailleurs déclenché une guerre d'échange, hein, qui a des conséquences extrêmement fortes sur le Brésil, sur la zone euro et sur plein d'autres régions du monde. Et ça, c'est un des aspects de ce côté... pompier pyromane, c'est Artus qui a employé cette expression des banquiers centraux. C'est des gens qui sont des garants de la stabilité, mais qui en même temps, par leurs décisions, parfois créent des désordres très importants. En l'occurrence, là, la situation du marché d'échange, qui est quand même un des très gros enjeux sur lequel le G20 est censé avoir un rôle dans la mise en place disons, d'un système plus stable. Et je suis assez sceptique sur ce qui peut en sortir en l'état. Alors sinon il y a aussi alors la BCE, pour ça c'est un observatoire extraordinaire, parce que le conseil des gouverneurs est un microcosme qui met aux prises des représentants de différentes nations, y compris le directoire qui est l'instance la plus supranationale. Évidemment les gouverneurs des BCN, Banque Centrale Nationale, sont évidemment d'abord de leur Banque Centrale Nationale, ça va de soi, mais du côté du directoire, d'abord il y a une répartition implicite en termes de grandes zones et de pays. Les grands pays doivent être représentés toujours au directoire, hein, par exemple, les quatre grands pays de la zone euro. Et par ailleurs, il est clair que là, on a vu réapparaître des oppositions très fortes, au point que, alors que la BCE a une doctrine du consensus et de la non-transparence explicite ils ne disent pas non-transparence, hein, mais la non-communication des minutes, c'est-à-dire des discussions et des décisions du Conseil des gouverneurs, ce qui est un cas relativement atypique comparé à d'autres pays, à d'autres contextes, où on sait qui a dit quoi, hein, dans le Conseil, qui a prôné la baisse des taux d'intérêt ou la hausse, etc. On a quand même vu apparaître des prises de position dans la presse, y compris d'Allemands, sur des questions qui clivaient d'un point de vue national, avec cette très forte opposition entre l'Allemagne et ses alliés et les pays dits du Club Med, avec la réapparition en plus de stéréotypes nationaux qui avaient un peu disparu depuis les années 90. Les pays du Club Med, c'est évidemment les pays laxistes, plutôt latins ou du Sud, avec les pigs aussi. Enfin voilà, il y a toute une mise en scène, mais très forte maintenant dans la presse financière, qui est omniprésente, des oppositions, des concurrences nationales et des enjeux nationaux. Et au point que la France a quand même mis un veto sur la nomination de Axel Weber, donc le gouverneur de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, comme futur président de la BCE, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on en est vraiment à des situations où il a été obligé de démissionner, voyant qu'il était bloqué par certains pays, dont la France. Donc c'est en fait, évidemment, le champ clos de lutte nationale, c'est évident. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est un peu... Enfin, moi, me fait dire qu'on est vraiment dans une dynamique de dislocation possible, quoi. Parce que le niveau, l'intensité de l'expression des désaccords est devenue vraiment très, très fort, quoi. Là encore, les fissures sont beaucoup plus apparentes qu'elles ne l'étaient. C'est un effet de la crise, évidemment, beaucoup, mais pas que de la crise. Il y a évidemment des facteurs structurels qui étaient déjà là avant, qu'on ne voyait pas, mais que le contexte a sans doute activé. Quant au rôle des mouvements sociaux, juste une anecdote. La BCE, c'est à Francfort, hein, c'est pas à Bruxelles, c'est un peu à part. C'est beaucoup moins de monde, c'est un millier d'experts, mais il y a quand même un syndicat qui est assez puissant et qui a fait des mouvements. Il y a eu des mouvements sociaux, il y a même eu des manifs, hein, du syndicat de la BCE, qui a des revendications salariales et qui a en particulier beaucoup critiqué la gestion interne de Jean-Claude Trichet. Hein. Donc il y a même des enjeux internes qui ont à voir avec les mouvements sociaux. Ceci dit, évidemment, c'est peu public, peu publicisé. Et puis c'est pas évidemment central sur la politique qui est menée. C'est complètement déconnecté, y compris par les acteurs de ces mouvements eux-mêmes, qui considèrent que revendiquer dans le contexte local n'a rien à voir avec avoir des prises de position critiques sur la politique monétaire qui est menée, qui est d'une autre nature et évidemment d'une autre échelle. Ce qu'on peut admettre d'ailleurs, effectivement, c'est d'une toute autre échelle. Et là, le poids des mouvements sociaux, là encore, on retrouve l'enjeu de l'expertise, la difficulté d'avoir une contre-expertise, d'avoir des analyses, des diagnostics serrés sur les décisions qui sont prises, sur leurs conséquences. Moi, je trouve que le niveau de contre-expertise dans le domaine des politiques monétaires, des questions de régulation financière est assez bas. Hein. Et il y a un vrai, là, moi, je serais plus... pas optimiste, je sais pas, par rapport à Sylvain, c'est pas une question d'optimisme, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on renforce les capacités de contre-expertise du mouvement social, des mouvements sociaux, des organisations politiques aussi, qu'il y a un vrai... et qu'en France, on a tendance à privilégier encore les joutes idéologiques, la rhétorique idéologique, qui est importante, hein, je dis pas qu'il en faut pas, hein, mais sur la contre-expertise, pas forcément pour faire du lobbying, justement, à Bruxelles, mais en général, on a besoin d'outils de contre-expertise pour être à la mesure des problèmes, parce que les problèmes sont objectivement complexes. Quoi. Voilà.
Pour répondre à votre question, puis du coup pour revenir aussi sur la question plus sérieusement qui a été posée et à laquelle j'ai répondu un peu rapidement sur le lobbying social, en fait le souci de tout ça, c'est qu'en fait si vous voulez, on a déjà un champ politique très clos sous lui-même à Bruxelles et dans ces arènes-là. Et en fin de compte, l'espèce de position de la Commission, c'est de dire, effectivement, vous pouvez rentrer dans ce jeu-là, allez-y, c'est ouvert, vous pouvez créer votre association, intervenir et compagnie. Et ça demande, enfin, moi, la question que je me pose, c'est quelle disposition ça demande pour faire ce type d'action politique. Et je pense que ça ne peut que favoriser des porte-paroles déjà très culturellement favorisées. Et donc, en fait, rentrer dans ce jeu-là, c'est si on ne le fait pas de façon très générale, comme tu viens de le dire, c'est renforcer la coupure entre professionnels de la politique et profanes. Et c'est rentrer dans une façon de faire de la politique qui est très tournée vers les médias, très tournée vers déjà ces décideurs-là. Et pour donner un seul exemple, mais ce n'est pas vraiment du tout une critique, c'est juste un constat. Si vous prenez Corporate Europe Observatory, initialement, ce qui est le lobby anti-lobby à Bruxelles, initialement, ce sont des militants écologistes hollandais qui arrivent à Bruxelles en pensant trouver là une clé d'entrée pour faire progresser les intérêts environnementaux. Et puis, au bout de 10 ans, ils se rendent compte qu'effectivement, en phase 2, il y a des grosses machines, etc. Et donc, une partie d'entre eux se convertit à la critique anti-lobby. Mais en fin de compte, ils ont aussi, du coup, changé la pratique militante. C'est-à-dire, vous ne les retrouverez pas à la sortie du métro en train de diffuser des tracts, vous ne les retrouverez pas dans des arènes publiques en train d'essayer de convaincre des masses de gens, etc. Ils sont dans une pratique militante où ils sont au cœur du quartier. Ils sont dans une pratique militante où ils essaient de faire circuler des communiqués de presse, leur position paper à eux. Ils sont accrédités au Parlement européen. Et donc, en fin de compte, ils ont été acculturés à une façon de faire de la politique aussi. Et eux-mêmes en voient des fois les limites. Donc du coup, ils essayent de faire émerger des scandales dans les tabloïds, dans les médias. Mais en fin de compte, ils mettent en circulation des critiques qui sont prises dans ce champ relativement clos déjà. Donc la question qui se poserait, c'est si on peut faire du lobbying social, est-ce que déjà, en tant que tel, on n'a pas déjà acté l'idée d'un espèce de champ politique clos entre gens décideurs, etc., confirmé ? Et la question, c'est... Enfin, déjà, ne serait-ce que de dire, regardez comment marche le lobbying, ça produit des effets politiques en soi, parce que le champ est fermé. Donc alors, comment on fait pour gérer cette question, cette tension de la délégation, quoi ? Est-ce que je m'engage dans une forme de militantisme où il faut parler l'anglais, être capable de faire un texte en anglais un peu péchu qui va être mis en circulation, aller voir des gens qui sont déjà des décideurs, en essayant de faire bouger sur un dossier la chose, mais en même temps, est-ce qu'en faisant ça, je renforce pas cette espèce d'idée que pour faire de la politique, il faut déjà être dans ce milieu et en être, quoi. Donc là, il y a vraiment une tension, et c'est un sac, je n'ai pas de solution. Voilà, c'est pour le dire plus clairement.
Bien, merci. Merci. Plus ? Merci beaucoup. Voilà, on fait une petite pause. Ça marche pas. On fait une petite pause de 20 minutes, et puis on se retrouve pour la conférence de Kip Dixon.